Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal en français, Jacques-Yves Molima.
Journée plutôt calme hier mardi à Goma, 24 heures après les manifestations populaires. Les activités socio-économiques avaient repris son cours normal, hormis les écoles et quelques institutions universitaires. Et puis, budget exercice 2023 déclaré recevable à l'unanimité à l'Assemblée nationale. C'était hier mardi, après la réplique du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui, à l'occasion, a rassuré la représentation nationale quant à la contre-attaque lancée contre l'agression rwandaise. Enfin, les femmes politiques de la Tchopo appelées à travailler en synergie pour leur élection. C'est une recommandation de l'ONG Congo en Images. Son coordonnateur, Compès Lusuna Moussafiri, est notre invité dans cette édition du journal. Pour en parler, voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Au Nord Kivu, hormis les écoles et quelques institutions universitaires, toutes les autres activités ont repris normalement ce mardi à Goma. Les banques, les stations-service, marchés, magasins et boutiques ont ouvert leurs portes. Gabriel Wamenya a fait la ronde de la ville. Voici son reportage.
À la grande comme à la petite barrière, la traversée est fluide comme à l'accoutumée. Les colporteurs et autres marchands ambulants, communément appelés chora-chora, qui traversent quotidiennement la petite barrière pour s'approvisionner au Rwanda comme en RDC, ne sont pas en reste. Ils vaquent librement à leurs occupations. Les uns, nous les avons rencontrés à la petite barrière et nous ont même exprimé les ras-le-bol, affirma que les marches qu'organisent la société civile et les mouvements citoyens ne jouent pas en leur faveur, eux qui vivent des activités informelles, alors que les vrais responsables des dites marches ou manifestations n'apparaissent jamais dans les rassemblements sur la voie publique lors de tels spectacles. Ce mardi matin, on pouvait apercevoir un engouement public devant toutes les banques de la place. Les militaires, les policiers ainsi que d'autres clients se frottent les côtes pour accéder au guichet. Pendant notre ronde dans la ville, nous avons constaté sur la grande artère principale qui part du rond-point BDGL jusqu'à la grande barrière, l'air était au ramassage de quelques panneaux publicitaires et effigies de quelques personnalités du pays, arrachées ou complètement vandalisées et détruites hier lundi par les manifestants en colère. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Et puis, toujours au Nord Kivu, la société civile de la ville de Beni recommande au gouvernement congolais de mettre fin à la mutualisation des forces FRDC-UPDF dans les opérations Usuja en cours dans les provinces du Nord Kivu de l'Ituri. Cet appel est contenu dans un communiqué rendu public lundi au terme d'une assemblée générale extraordinaire tenue à Beni avec toutes les structures de la société civile. Pour elle, ces opérations n'ont pas réussi à ramener la paix jusque-là et sont improductives sur terrain. Elle exige même la rupture des relations diplomatiques avec tous les pays considérés comme agresseurs, notamment le Rwanda et l'Ouganda, compte tenu de leur soutien avéré aux rebelles du M23. Maître Pépin Kavota, président de la coordination de la société civile Force Vive de Beni, explique au micro d'André Kitenge.
Depuis que la RDC, notre chère patrie, notre cher pays, a signé l'accord et même les renouvellements des accords ou de l'accord entre UPDF et FRDC, nous constatons sur terrain, après analyse objective, que cet accord ne nous amène pas à la paix. Et recommandons à notre gouvernement de bien vouloir rompre la collaboration UPDF FRDC considéra l'improductivité des opérations sur le terrain. Si nous regardons de loin tout ce qui se passe dans le territoire de Rutshuru, nous sommes en train de faire l'analyse de sorte que nous voyons la main de l'armée ougandaise et la main de l'armée rwandaise. Donc, de l'autre côté, dans les Rutshuru, l'Ouganda appuie les M23 au même titre que les Rwanda. Mais lorsque vous venez ici chez nous, dans le territoire de Beni, il y a une sorte d'hypocrisie. C'est sur cette base-là que nous disons que notre pays doit rompre des relations diplomatiques, non seulement avec les Rwanda, mais aussi avec l'Ouganda.
Dans ce même communiqué, la société civile demande également au gouvernement congolais de sursoir l'arrivée des forces coalisées de l'EAC, communauté des États de l'Afrique de l'Est, au pays. Pendant ces temps, la société civile du Sud Kivu appelle la population à une forte mobilisation de soutien concernant la guerre qui prévaut dans la province voisine du Nord Kivu. Le bureau de coordination et la nouvelle dynamique de la société civile ont lancé cet appel de soutien au FRDC dans une déclaration commune ce lundi 31 octobre. Adrien Zawadi et Jean Chrysostome Kijana demandent aux autorités du pays de couper toute relation avec les pays voisins agresseurs de la République démocratique du Congo.
La nouvelle agression armée dont est victime notre pays ne cesse de prendre de l'ampleur du jour au lendemain. Face à cette énième agression, l'heure est à la mobilisation générale et tous azimuts.
C'est pourquoi, sur demande de toute la population du Sud Kivu, ces manifestations citoyennes et pacifiques ont pour objectif
réaffirmer notre attachement indissoluble à l'unité nationale du Congo, à la sauvegarde de son indépendance et intégrité territoriale. Réaffirmer notre soutien indéfectible à nos vaillants militaires des FARDC et tous les services de sécurité. Exprimer avec force notre condamnation totale de cette énième agression du Congo de la part de ses voisins, les Rwanda et l'Ouganda. Condamner et fustiger l'hypocrisie de la communauté internationale et de toutes ces organisations régionales et sous-régionales qui abusent de la bonne foi des autorités congolaises. Lancer une mobilisation générale de l'ensemble du peuple congolais pour une défense collective de notre pays, et cela par tous les moyens possibles.
Ici à Kinshasa, pendant ces temps, l'agression rwandaise dans l'est de la RDC, le courant progressiste d'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi plaide pour le recrutement massif de la jeunesse congolaise dans l'armée afin de faire face à la guerre imposée par le Rwanda. Dans une déclaration ce mardi à la presse, les députés progressistes d'Ensemble saluent l'expulsion de l'ambassadeur rwandais et demandent aussi celle de l'ambassadeur de l'Ouganda, complice du Rwanda dans cette crise. Ces élus nationaux proposent aussi la mise en place d'un fonds national de soutien au FARDC, afin de mobiliser les moyens pour financer la guerre. On écoute le président du caucus, Simon-Pierre Moulamba, au micro de Michel Kifindangoy.
Les courants révolutionnaires progressistes saluent la décision symbolique d'exclusion de l'ambassadeur du Rwanda de notre pays. Ils souhaitent que cette même mesure soit aussi prise à l'égard de l'ambassadeur de l'Ouganda chez nous. Il exige également la fermeture immédiate de nos frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. Les courants révolutionnaires progressistes profitent de cette même occasion pour demander à notre gouvernement de décréter une mobilisation générale consistant à l'enrôlement massif de toutes les femmes et de tous les hommes valides pour servir sous le drapeau national, car la nation est en danger. Il demande au gouvernement de secourir aux forces de la SADC et des pays amis. Il réclame l'institution à compter de ce jour de la contribution obligatoire pour soutenir l'effort de guerre.
Autre nouvelle, ce mercredi 2 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Journaliste en danger GED rend public son rapport annuel d'observation et d'analyse sur l'état des médias et de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Dans ses rapports, GED met un accent sur les menaces et attaques enregistrées au cours de l'année 2022 contre les médias et les journalistes congolais. Au total, au moins 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse qui se répartissent comme suit. 49 journalistes menacés, 37 journalistes arrêtés, 18 agressés, 17 médias ou émissions interdites, 2 journalistes enlevés, 1 journaliste tué. Ces chiffres sont nettement en hausse comparativement à l'année 2021 où GED avait dénombré 110 cas et 116 cas en 2020. Au regard de la situation sécuritaire alarmante pour les journalistes congolais, GED recommande entre autres la réforme sans délai de la loi actuelle sur la presse en consacrant le principe de la dépénalisation des délits de presse et aussi la mise en place d'un mécanisme national de protection des journalistes constitué des relais dans les différentes institutions concernées par la question de la sécurité afin que les exactions commises contre les professionnels des médias ne restent pas impunies. Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, clôture hier mardi à l'Assemblée nationale du débat général sur le projet de loi de finances exercice 2023. Après la réplique du Premier ministre qui a rencontré toutes les préoccupations des députés, ce texte a été déclaré recevable à l'unanimité. Dans son mot, Jean-Michel Samalou Kondé, le Premier ministre, a rassuré la représentation nationale qu'un contre-attaque est déjà lancé face à l'agression rwandaise et qu'aucun kilomètre carré ne sera abandonné entre les mains de l'ennemi. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est au micro de Michel Kifindangoy.
Au moment où nous sommes ici réunis dans cet exercice républicain et constitutionnel destiné à doter notre pays de moyens de son fonctionnement, il y en a, je me sens inspiré de le dire, qui se réunissent ailleurs pour fomenter des plans machiavélique et diabolique, visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Nos populations, dans la partie est de notre pays, font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher, la patrie. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Traverser la frontière est une chose. Penser qu'on peut y demeurer en est une autre.
Et puis, exécution du grand projet de l'industrie des batteries électriques qui va créer plus de richesses et d'emplois en République démocratique du Congo. Le gouvernement renforce l'implication des élus des provinces dans lesquelles se trouvent les minerais stratégiques qui entrent dans la fabrication des précurseurs des batteries électriques. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungi, a réuni ce mardi ici à Kinshasa les députés nationaux des provinces du Tanganyika et du Olomami qui regorgent le lithium et d'autres minerais. Le point avec Priscilla Kabuya.
À cette occasion, le ministre de l'Industrie a donné des informations clés sur le processus d'installation de l'usine de fabrication de précurseurs de batteries électriques, tout en rassurant ses élus nationaux qu'aucune province n'est exclue de ce grand projet intégrateur. Séance tenante, Julien Paluku a indiqué que les observations des élus du Tanganyika et du Olomami seront désormais prises en compte par l'exécution de ce grand projet panafricain et de renchérir que le gouvernement va accélérer le développement de zones économiques spéciale dans l'ex-Grand Katanga. Satisfait d'avoir fait entendre la voix de la population de leur province qui souhaite l'installation de l'usine de précurseurs de batteries électriques dans le Tanganyika, soit dans le Haut-Lomami, ces députés nationaux conduits par Martin Kabouloulou ont appelé au calme.
Signalons qu'un cadre permanent de concertation est mis sur pied et sous peu, le ministre de l'Industrie, accompagné des élus, va se rendre à Manono dans le Tanganyika et dans le Haut-Lomami pour échanger avec les notables et la population sur ce grand projet. Au Kassai oriental, pendant ce temps, dans le cadre de la modernisation de la voirie urbaine, la ville d'Mbujimayi vient de bénéficier de 14 autres kilomètres de route à asphalter sur les 60 kilomètres, dont 25 du projet Chilegelou en cours de réhabilitation. Le directeur général de l'office de voirie et drainage l'a annoncé le week-end à Mbujimayi pendant son bref séjour. D'après Victor Tumba Chikila, il s'agit des avenues Mbala Mwambila Bantu, Lubi du gouverneur, avenue Saint-Raphaël, Grasse Espace, avenue Luputa, Timbombo et Kachala Bonzula, pour ne citer que cela. Victor Tumbachi, qui est le directeur général de l'office des voiries et drainage, s'exprime au micro de nos confrères accrédités au gouvernorat de province.
Dans la ville de Mbujimayi, comme vous le savez, nous avons le projet Chilegelou qui est en action. Nous avons été aussi sur le projet Safrimex. J'ai mis état-major où on a même commencé à poser les appareils. En 6 de ces 2 projets, il y a un projet qui va démarrer d'un moment à l'autre. C'est le projet JMC, ce que nous appelons les 14 kilomètres. Qui va tenir en 6 de 25, de 35, ça nous fait 60 plus les 14, ça nous fait 74 kilomètres que la ville de Mbujimayi va avoir. Nous avons profité de notre passage en Mbujimayi à la suite de la visite de son excellence Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, nous avons mis à profit avec l'entreprise JMC pour faire la reconnaissance des différents acteurs sur lesquels ils vont travailler. Et ensemble, pour voir quels sont les différents problèmes qu'on peut rencontrer sur ces différents acteurs. Et en même temps, nous avions fait une réunion technique pour expliquer à l'entreprise qui va d'un moment à l'autre démarrer ses travaux, comment s'y prendre pour pouvoir faire les temps d'immobilisation et les circuits d'approvisionnement.
Autre nouvelle, dans la province du Manima, après être saisi par la population à travers son mémorandum du 28 octobre dernier, et face à la situation qui prévaut actuellement dans cette province, l'Assemblée provinciale du Manima a rendu publique sa déclaration où elle prend acte et partage les préoccupations légitimes exprimées par les forces vives qui constituent sa base électorale. Elle demande à la population de rester calme et vigilante et constamment mobilisée pour barrer la route à toutes les forces rapaces qui tiennent à déstabiliser le Maniema. Suivez un extrait de cette déclaration, lu par le rapporteur de cet organe délibérant, les députés Thierry Badisungu Kamwanga, au micro de Florence Kizalou.
L'Assemblée provinciale prend l'engagement de tout mettre en œuvre pour répondre positivement aux recommandations formulées par la population en vue de sortir le Maniema de cette grave injustice et confusion, manifestement entretenue par les forces politiques obscures. L'Assemblée provinciale dénonce une démocratie à double vitesse et à géométrie variable, par laquelle des intérêts occultes tiennent à tirer le Maniema vers le bas, comme la seule province du pays privée du droit de se doter d'un gouverneur et d'un vice-gouverneur élu et redevable vis-à-vis de la population à travers nous, ses élus. L'Assemblée provinciale invite la CENI et le Conseil d'État à se crédibiliser davantage en vidant les fonds de la question pendante. Victime d'une campagne de diabolisation irrationnelle de la part d'un groupe de prédateurs, l'Assemblée provinciale lance un vibrant appel au président de la République pour son implication personnelle en vue de sauver le maniement du chaos qui s'installe durablement.
Actualité internationale.
En international, face aux risques multiples, l'unité prônée à l'ouverture du sommet de la Ligue arabe. C'est à Alger, mardi 1er novembre, qu'a commencé le sommet des dirigeants de la Ligue arabe après une interruption de 3 ans à cause de la pandémie de Covid-19. S'il s'est ouvert sur fond de division sur les conflits, notamment en Libye, des appels ont aussi été lancés pour renforcer le partenariat entre les pays arabes et l'Afrique dans les domaines économiques et sécuritaires.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, les femmes politiques sont appelées à travailler dans la synergie en vue d'espérer l'élection de leur future candidate aux prochaines élections générales dans le pays. C'est ce que recommande la troisième phase du projet Voix et Leadership des femmes, initié par l'ONG Congo en Images. Ce projet a été lancé ce mardi par le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo. En quoi consiste ce projet et quelle est sa spécificité par rapport aux deux premières phases? Le coordonnateur de l'ONG Congo en Images, Compense, Lusuna Moussafiri, est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient avec Jacques Moukonkolé. Suivez.
Compense Lusuna, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes le coordonnateur de l'ONG Congo en Images. Le président de l'Assemblée provinciale vient de lancer tout à l'heure la troisième phase du programme Voix et Leadership des femmes. En quoi consiste-t-il?
Ok, merci, monsieur le journaliste. Ce programme consiste à appuyer les femmes, surtout les femmes qui ambitionnent à faire la politique. Et celles qui sont déjà dans la politique il y a de longues années. On a trouvé que ces femmes ont besoin d'un accompagnement parce que les résultats auxquels elles ont abouti n'ont pas vraiment produit des effets escomptés. On a estimé qu'en les appuyant, les accompagnant à travers ce programme Voix et Leadership des femmes du Centre Carter qui est financé par les Affaires mondiales Canada, on peut arriver à leur donner un plus pour qu'elles soient performantes et lors des échéances électorales prochaines, qu'elles soient capables de se présenter vraiment en étant bien armées.
Et puisqu'il s'agit de la troisième phase, cela signifie qu'il y a eu une première et une deuxième. Quelle est la spécificité de cette phase par rapport aux deux premières?
Merci. C'est comme je l'ai dit dans l'élément de réponse que vous venez de donner tout à l'heure. Si les deux premiers ont planché sur la femme en général, la jeune fille, mais les femmes du monde associatif, femmes urbaines, femmes de monde rural. Cette fois-ci, nous sommes dit que la spécificité, c'est parce qu'on aborde le plus l'aspect femme politique, parce que si on a estimé que la représentativité de la femme pose problème chez les journalistes, partout, donc c'est pas un secret. Au niveau de la province, c'est la même chose, mais nous n'allons pas voir ce qui se passe ailleurs. Chez nous, ici, vraiment, c'est catastrophique. Alors, avec le programme Voile des petites femmes, nous estimons que cette année, cette phase-ci, on va vraiment appuyer sur l'accélérateur. On va mettre l'accent sur l'accompagnement de la femme politique.
Étant entendu qu'il est question de promouvoir les droits des femmes politiques, quels sont ces droits?
Oui, mais monsieur le journaliste, c'est le droit de la femme politique, c'est de porter candidate. Parce que nous voyons l'aspect de cet aspect postulé. Parce que nous avons déjà sensibilisé les femmes à être électrices. Pour essayer d'accompagner l'autre. Vous savez, monsieur le journaliste, nous avons 52% de l'électorat congolais composé de femmes. Nous voulons nous appuyer sur cette dimension-là pour que toutes les autres femmes-là puissent nous joindre, se joindre aux autres-là qui ambitionnent pour que, ensemble, parce qu'il suffit seulement que ces femmes s'entendent aujourd'hui pour voter pour leurs consoeurs. Monsieur le journaliste, je pense que vous n'allez pas me contredire si je vous disais qu'on peut avoir une future présidente de la République.
Quelle stratégie allez-vous adopter pour les accompagner?
Il y a beaucoup de stratégies, monsieur le journaliste. Nous avons notamment la boîte à images, nous avons la sensibilisation de porte à porte, nous avons des ateliers, nous avons les tables rondes, nous avons les forums citoyens. Nous avons tout un arsenal de stratégies et nous estimons que les unes vont compléter les autres. Parce que nous estimons qu'avec toutes ces stratégies-là, ça peut nous amener à un résultat que nous estimons vraiment, je peux appeler ça, escompté quoi.
Oui, c'est ça le résultat final que vous attendez, donc l'élection massive des femmes aux prochaines élections.
Tout à fait, monsieur le journaliste, vous l'avez dit, non seulement l'élection massive des femmes aux élections, mais aussi l'éveil de conscience, parce que faudrait que la femme comprenne qu'elle est elle est assise sous les us et coutumes rétrogrades, elle est assise sous le complexe d'infériorité qui la ronge. Elle doit savoir qu'elle est la première éducatrice de la cellule mère de la famille, de la nation, pardon. Et alors, à l'opposé, comment on peut comprendre qu'une femme qui a de la valeur, à qui on donne une place de soleil parce qu'elle doit mettre au monde comme une cobaye, c'est pas comme une pondeuse. Mais par contre, lorsqu'il faut lui donner le pouvoir, on fait intervenir les violences sexistes. Non, vous n'êtes pas en mesure de faire ça, laissez ça aux hommes. C'est injuste, monsieur le journaliste.
Et pour terminer, quelle durée va prendre cette troisième phase?
Ce projet a une durée de 12 mois, monsieur le journaliste. Nous estimons que toutes les activités que nous allons réaliser, nous les avons chronométrées en fonction de 12 mois.
Kopens Lusuna, merci.
Je vous en prie, monsieur le journaliste.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Mise en onde de Jean-Claude Ntiala. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers toute la République, sous la coordination de Richard Junior Kamunga et la supervision de Ben Kabamba. Merci aussi à vous pour votre particulière attention.